Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Air Eden pour notre deuxième émission radio de l'année scolaire 2023-2024. Pour cette édition, l'équipe et moi-même, nous nous sommes interrogés sur notre établissement, l'externat. Mais pas n'importe lequel externat, celui des enfants nantais. Aujourd'hui, nous nous intéressons tout d'abord aux légendes de l'externat, des salles secrètes, des fantômes d'anciens élèves qui hantent les lieux. Que nous cache donc cet établissement âgé de 150 ans ? Marnie, Antoine, Eléa, Sophia, Paul et Justine, ça fait du monde, notre petite bande de reporters ont joué aux Ghostbusters pour tenter d'éclairer les recoins les plus sombres de la vérité. L'externat des enfants nantais est une institution centenaire. C'est pourquoi je vous conterai un résumé de son histoire avant d'écouter d'anciens élèves de l'externat se remémorer leurs années de collège et de lycée. Le présent aussi est ponctué d'événements. Il sera donc question de revenir sur l'échange culturel avec des élèves espagnols de classe de première venus visiter Nantes. Bien, cela étant fait, commençons notre expédition dans les secrets des murs qui nous entourent. Pour cela, suivons Eléa, Antoine, Marnie et Sophia dans leur quête de vérité.
Sophia, Antoine, réveillez-vous.
Ça va, Eléa ?
Oui, ça va, mais on est où, là ?
On tire les escaliers ?
Les escaliers de l'externat.
Comment on atterrit là ?
Qu'est-ce qu'on fait dans l'externat à 22h37 ?
Bah attendez, c'est génial ! On va pouvoir visiter toutes les pièces secrètes.
Mais ça va pas la tête, on vient de se réveiller en milieu de l'externat, on sait pas pourquoi on est là.
Moi je vais rentrer chez moi, hein ?
Attendez, on sait qu'on peut sortir ? Tout est fermé. Quitte à passer la nuit ici, autant écouter Antoine. Et si on allait se promener ?
Ouais.
C'est quoi ce truc-là ?
C'est un enregistreur,
c'est ouais, pas ça ? Ouais, c'est une boîte. Je sais pas si elle marche encore par contre. Et si on monte à l'étage prépa ? Normalement, on travaille assez tard. Il y aura peut-être encore du monde pour nous aider.
T'as raison, allons-y.
Il y a deux couloirs. On va commencer par la droite. Des salles de cours, des toilettes, mais à part ça, je vois rien d'exceptionnel.
C'est quoi cette salle ? Oh, il y a un canapé ! Mais trop classe, pourquoi on n'a pas ça, nous ?
J'avoue, t'as grave raison.
Il y a du café ?
Il y a plein de documents.
Bonne salle des profs ?
Peut-être.
Waouh, il y a une méga grande salle.
Les salles des prépas, c'est comme nos salles, sauf qu'elles font deux fois leur taille, qu'il y a des tableaux à créer, ça faisait longtemps que j'en avais pas vu, et des machines à café.
Eh, hey, regardez, de la fenêtre, on voit une sorte d'escalier en colimaçon qui descend.
On devrait l'emprunter pour voir ce qu'il y a au bout.
C'est la salle 404 ?
Mais c'est un truc de fou ! Il y a un escalier qui mène d'une des salles prépa à la salle 404 !
Personne nous l'avait dit, ça !
Non !
Vous pensez qu'il a été construit pour quoi ?
C'est peut-être... un escalier de secours.
Bon, où est-ce qu'on pourrait aller maintenant ?
Vers les salles des professeurs. Mais oui, on s'est toujours demandé comment les professeurs faisaient pour arriver si vite. Eh bien, une fois, je les ai vus. Ils arrivent de la porte qui est là-bas. On va suivre leur chemin dans l'autre sens.
Oh, mais regardez, c'est pas la salle des professeurs. C'est une immense bibliothèque. Oh, vous avez vu cette cheminée, elle est trop belle.
Et le plus fou, c'est l'immense table qu'il y a au milieu.
Oh, regardez.
On dirait des vieux manuscrits.
Vous pensez qu'on peut ?
Des lettres anciennes.
Oh, le papier est si vieux, on dirait qu'il va s'effriter entre nos doigts.
Il y a un deuxième de placard ouvert. Oh, cassettes. C'est des anciennes cassettes, comme ce qu'on mettait dans les voitures avant.
Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? J'aurais adoré jeter un coup d'œil au balcon, mais il fait nuit, on est enfermé dans l'externat, et on sait toujours pas comment en sortir. Je vous propose qu'on aille voir la salle des profs.
Ah ! La porte a claqué derrière nous.
Mais quoi ?
Antoine,
quoi ?
Antoine,
mais où ?
C'est où ?
C'est un truc de fou. La porte, on peut plus l'ouvrir ?
Attendez. On se ressaisit, il doit forcément y avoir une sortie.
Ok, on est coincé quelque part dans la salle des profs, il faut absolument qu'on trouve.
Par contre, elle est trop belle.
C'est un truc de fou.
Mais vous avez vu ce canapé ? La salle des profs, c'est super confortable en fait. Là-bas, je crois qu'il y a une porte, on devrait sortir. Et après, vous avez une idée d'où on peut aller ?
Ah, le couloir de la mort !
Le couloir de la mort ? Tu veux dire les salles secrètes du CDI ? Peut-être qu'Antoine est allé se réfugier là-bas.
Je suis sûre qu'Antoine est parti là-bas. Hein. Regarde.
Labo-photo ?
Comment ça, labo-photo ?
Ah, mais non, il y a une tache rouge là-bas !
Ah, je veux le
fond ! Refermez cette porte tout de suite.
Bon, qu'est-ce qu'on a plus loin ?
Purée, cette pièce, elle fait carrément flipper. Entre le papier peint qui est complètement décollé, le sol qui est super abîmé et la lumière qui grésille.
Labo vidéo, audiovisuel...
Oh, vous avez vu ?
Oh, c'est un ancien dérouleur de film ! Et il y a des jouets pour enfants.
Allez,
à côté.
Ouvre la porte.
Oh non, on peut pas y aller. C'est pas grave, la porte est en verre. On en voit assez comme ça.
Eléa, regarde.
Cette porte mène...
C'est le truc
oui.
De vélo. C'est dingue.
Attendez, il y a une autre porte. Elle mène à la salle de devoirs. Vous savez, la grande salle du CDI. Il y a des anciennes cassettes, comme avant, comme dans la bibliothèque. Mais attendez, cette porte-là. C'est un escalier. C'est l'accueil.
Ah oui, t'as raison.
Ça se relie alors ?
C'est quoi ça ?
Sors, 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 sors.
Antoine, tout cas, ce qui est sûr, c'est que Antoine n'est pas là.
Il faut ça, il faut absolument qu'on le retrouve.
Oh là 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 là.
Quelle heure est-il?
Oh non. On a dépassé les minuit.
Bon, j'ai une idée. Retournons au point de départ.
Pour retrouver Antoine.
Oh, il y a un petit papier par terre.
Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que vous avez autant apprécié que nous ces découvertes et ça se fait. Goodbye, Ixarna.
Merci à notre petite bande de reporters pour cette aventure. Restez avec nous pour entendre leur prochaine expédition. Mais avant cela, je me sens d'humeur à conter une histoire. Ou plutôt, une aventure. Celle des enfants nantais. Il était une fois un livre. Un gros livre, attendant patiemment sur son étagère. Ce livre s'ennuyait, serré entre deux autres livres qui sommeillaient en silence. Quand soudain, une main curieuse se saisit de la couverture de ce gros livre. Ce geste créa un craquement, comme une plainte de ses congénères qui tombèrent l'un et l'autre dans le creux créé par la disparition de l'ouvrage, emportant avec eux toute la rangée des livres voisins. Le livre s'ouvrit aux yeux du lecteur, heureux enfin d'un nouveau pouvoir conter l'histoire de l'externat des enfants nantais. Celle-ci commence en 1851 dans le centre-ouest de la ville de Nantes et a pour but de donner à la France, la fille aînée de l'Église, un enseignement secondaire, religieux, qui rompt en quelque sorte avec l'esprit révolutionnaire que l'on appelait voltairien à l'époque, qu'une partie importante de la bourgeoisie nantaise avait acquise depuis trop longtemps, selon Mgr Jacquemet, alors évêque de Nantes. L'établissement se situe à sa création dans un hôtel particulier, l'hôtel Porto, rue Lafayette, qui accueillera lors de sa rentrée scolaire de 1852 42 enfants nantais, au même titre que Saint Donatien et Saint Rogatien, patrons du diocèse et de la ville de Nantes l'été avant eux. Il ne m'a pas semblé nécessaire de vous conter les tourments innombrables de l'abbé Pergeline, alors directeur de l'externat des enfants nantais, avec les finances de l'établissement. Si je venais à me tromper, je vous invite à vous rendre au CDI afin de lire cet ouvrage qui est très complet à ce sujet. Enfin, passons sans plus attendre à la suite de cette histoire. Le 9 décembre 1905, avec la séparation de l'Église et de l'État, je vous l'accorde, c'est un sacré bond dans le temps, l'externat doit affronter, au même titre que les autres établissements d'enseignement secondaire, le séquestre, qui consiste à réquisitionner les établissements pour ensuite les réattribuer aux plus intéressés. Mais s'en sort grâce au congrès, des unions d'anciens élèves qui protestent contre les séquestres et aident les établissements à garder leurs locaux. Mais le temps finit d'achever l'établissement, qui céda au séquestre et aux visites des inspecteurs qui trouvaient les locaux inadaptés. L'externat déménagea donc rue du Cardinal Richard, au cours de l'été 1910, après un accord passé avec les fidèles compagnes de Jésus, une communauté religieuse qui était alors propriétaire des lieux. La guerre de 14-18 n'eut pas de fait notoire sur la ville d'établissement, sauf peut-être certains professeurs mobilisés. Jusqu'à une offensive allemande, au printemps 1918, à Amiens, qui força les communautés religieuses à se réfugier chez les fidèles compagnes de Jésus, qui, afin de pouvoir accueillir tout le monde, demanda à l'externat de quitter les locaux. Le directeur trouva un nouveau refuge, avenue Camus, un grand hôtel bourgeois dont il devint le propriétaire en 1932. L'hôtel étant trop inadapté, un bâtiment de 3 étages fut construit entre 1935 et 1937, pour accueillir plusieurs salles de classe et d'autres salles pour la direction et la gestion de l'établissement. Le bâtiment renomme. Après la Seconde Guerre mondiale, le paysage de l'enseignement secondaire s'était considérablement modifié. Elle n'était plus réservée à une élite, mais dès lors accessible aux parents qui souhaitaient voir leurs enfants effectuer de longues études. C'est avec cet afflux croissant d'élèves qu'une ancienne clinique fut acquise pour accueillir les classes d'élèves plus jeunes et fut appelée le Petit Collège. Après cela, en 1964, de nouveaux travaux furent mis en place pour construire un bâtiment comportant de nouvelles classes ainsi que des laboratoires, comme le demandait la politique éducative de cette époque. C'est le bâtiment L'Équimeneur. Plus tard apparut le bâtiment Simon, avec les salles de sciences et les salles informatiques telles qu'on les connaît. Tout au long des années 60 et 70, l'externat résista aux nombreuses révoltes de la jeunesse de cette époque, et en 1984, devint un établissement mixte, malgré le jumelage avec l'institution Françoise d'Amboise, qui avait pour but de satisfaire les familles à propos de la mixité. Tout cela arriva un peu tard comparé aux autres établissements de Nantes, ce qui mit un coup à la réputation de l'externat. Malgré cela, la vie de l'établissement allait de bon train. Les élèves délégués ainsi que les bureaux des élèves, à l'association sportive en passant par l'association culturelle et loisirs des enfants nantais et le soutien pédagogique. L'Éden était un établissement où il faisait bon vivre et où l'on aimait apprendre. Cela attirait toujours plus d'élèves, ce qui entraîna la construction d'un nouveau bâtiment qui comprend un nouveau et plus grand réfectoire, plus de salles de sciences et de salles de classe, mais surtout un nouveau gymnase et une grande salle qui a l'usage d'un amphithéâtre, aujourd'hui appelé la salle Jean-Paul II. L'aumônerie a aussi trouvé sa place, ainsi que le CDI tel que nous le connaissons aujourd'hui. Après cela, plus de grands changements. C'est normal, le livre doit bien avoir une fin. Mais l'histoire qu'il raconte se poursuit avec nous. Les enfants nantais qui pouvons au quotidien agrémenter cette aventure, notre aventure, de notre présence et de nos actes. Nos prédécesseurs nous ont laissé 150 ans d'histoire. À nous maintenant de construire celle des années suivantes.
Merci, Auxence.
Mais qui suis-je pour parler de l'externat? Moi, un élève d'aujourd'hui, Ça, Sabina l'a bien compris et est donc partie à la rencontre d'une ancienne élève. On l'écoute tout de suite.
Oui, j'ai interviewé Fanny Pochol, qui était une ancienne élève à l'externat de 2009 à 2016 et qui est actuellement à son troisième spectacle, intitulé « Comment bien réussir son burn-out ». Je lui ai posé une série de questions sur son expérience à l'externat. C'est vraiment quelqu'un de super chaleureuse et très ouverte. Elle a été ravie à l'idée du projet radio qui a été mis en place à l'externat. Donc, est-ce que vous en gardez un bon souvenir, en somme, de votre expérience à l'externat en tant que collégienne puis lycéenne ?
Oui, j'ai plutôt un bon souvenir au global. Après, j'ai pas de souvenir hyper marquant non plus, d'anecdotes de dingue à raconter. Ouais, non, j'en garde plutôt un bon souvenir, je suis restée un moment, donc...
Est-ce qu'il y a un prof qui vous a marqué ?
Alors ça, oui, je peux carrément en citer plusieurs. Je pourrais citer en premier Madame Kieffer, qui était ma prof de théâtre en première terminale, qui m'a beaucoup, beaucoup aidée à passer les concours des écoles de théâtre après en post-bac. C'est quelqu'un que j'affectionne vraiment énormément, qui est d'une gentillesse incroyable, qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup soutenue. Et c'était pas évident de soutenir quelqu'un qui allait se lancer dans une carrière de théâtre alors que tout le monde espérait qu'elle fasse plutôt une grande carrière de journaliste ou de choses plutôt dans ce sens-là. Donc elle, je la remercie énormément. En autre prof que je peux citer Madame Gernoux, qui était ma prof de français en 4e, 3e, qui est la première personne à qui j'ai dit mon souhait de devenir humoriste. Et j'ai beaucoup apprécié son soutien aussi parce qu'elle ne s'est pas moquée de moi, alors que beaucoup de gens auraient pu en rire, et est venue voir mon spectacle quelques années après. Donc elle m'a beaucoup marquée. Et je citerai également deux professeurs qui m'ont beaucoup marquée sur mes années de première terminale. Monsieur De Villard, qui était mon prof de français et de littérature, vraiment qui était un prof absolument génial, qui m'a beaucoup marquée là-dessus pour tout ce qu'on apprenait en cours et en termes de soit de littérature, mais aussi de culture générale. Il m'a apporté beaucoup d'auteurs que même je lis toujours actuellement. Et je citerai aussi Monsieur Joly, qui était mon prof d'histoire géo. J'ai adoré ses cours et c'est aussi une personne qui est venue par la suite me voir en spectacle et qui m'a fait des retours absolument super touchants. Donc vraiment, voilà, c'est quelqu'un de très très chouette. Je dirais que c'est vraiment les profs qui m'ont le plus marqué à l'externat.
Nous avons donc eu aussi l'occasion de parler un peu du projet radio à l'externat. Je lui ai donné des informations puisqu'elle était assez curieuse de connaître un peu plus Good Morning Externat. Nous avons même réussi à parler de d'autres sujets hors du thème et Fanny est vraiment quelqu'un de super cool et qui a gardé une bonne expérience de l'externat.
Merci encore une fois Fanny Pochol d'avoir répondu à nos questions et merci Sabina d'avoir posé des questions. Un autre intervenant un peu taquin s'est manifesté dans les locaux de l'externat. Notre petite bande de reporters est partie à sa recherche. Repartons pour une nouvelle expédition.
Merci, Auxence. D'après les plus vieilles rumeurs de l'externat, un fantôme entrait à l'établissement qui ferait disparaître des copies, des objets ou même des élèves. Je vous invite à vous joindre à nous afin de découvrir qu'est-ce qui se cache derrière ce fantôme.
Mais donc, pour vous, le bac, c'est passé comment, genre le bac blanc ?
Bah, je sais pas, franchement, j'ai assez peur quand même. Toi ?
Oh là là !
Ça va aller.
Les copies ont disparu. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?
Les copies de bac ?
Bah, a priori, oui. Je comprends pas. On les avait réceptionnées ce matin. Elles étaient sur le bureau.
Bah, peut-être chercher dans le CDI.
Bah, on va être obligé de toute façon. Hein. On va partir à la recherche de ces sacrées copies.
Vous trouvez ?
On trouve rien du tout.
Non.
C'est pas cata.
Quelqu'un a vu quelque chose ? Parce que là, on voit rien, les gars. Il y a vraiment pas de copies. Paul, tu vois quelque chose ? Mania, elle trouve rien.
Non, non, j'ai rien vu. Ah, attends, regarde là. Il y a une copie sous la porte.
C'est quoi ça ? T'as pas sonné de scène en plus ?
Ah bah, on n'était pas obligé de la retrouver, hein.
Oh la vache, t'as vraiment fait ça ?
On peut la remettre, hein, si vous voulez.
On est où, là ?
Bah, je sais pas du tout.
Normalement, on est dans les couloirs qui mènent aux toilettes et aux anciennes salles du labo photo.
Ah, mais c'est les salles cancer ! C'est pour ça que ta copie était là !
Hein ? Bah, mais non.
C'est quoi, là ? Y a un bon papier. Les gars, ici, là. C'est encore une copie.
Oh, c'est la tienne, Justine.
Ah non, ça, c'est celle de l'autre Justine. Moi, j'écris pas comme ça. Ouais. Les gars, c'est quoi au bout du couloir ?
Je sais pas, mais il y a
un truc qui bouge. Ah, bah, c'est mort, je me casse, moi, j'ai peur.
Moi, je m'en vais.
Et moi aussi.
Non, mais si tout le monde part, j'ai bien retrouvé les copies.
Bon, on les retrouve pas, c'est pas grave.
C'est la tienne, non. Non, mais.
Bah, attends, mais on a retrouvé la mienne.
Attends, il est parti. Il n'y a plus rien du tout.
Va voir, Paul, c'est toi qui
prends.
Oui, allez, vas-y.
Ah, oui, c'est flippé. Il y a un truc ou pas ?
Non, non plus.
Là, regarde. Dans les marges, vers l'accueil.
Oui, une copie.
Ah bah c'est Mathilde. C'est bien débrouillard. Par contre, la piste a l'air de remonter. Paul, vas-y pour voir. Alors, attends, je crois que là, c'est... On est près de la compta, je crois. Quoi ?
Regardez, là-bas à droite.
Ah oui, sur les marches.
Ah, mais c'est la mienne.
Ça a l'air d'aller vers la bibliothèque.
Attends. Y'a personne, je crois.
Regardez là-bas, y'a un placard qui est ouvert. Attends, regardez ce qui est écrit. Il paraît qu'au 19e siècle, il y a une classe toute entière qui a été décimée à cause d'une épidémie.
Ouais, c'est sympa ça, Marnie, mais nous ce qu'on veut, c'est la copie. Alors, non, celle-là je la connais pas non plus.
Encore une des terminales.
Regardez, il y a un pétale de rose à côté. C'est parce que c'est la Saint-Valentin aujourd'hui.
Le fantôme aussi,
hein. Oh là là, on a un fantôme romantique sur les bras. Paul, regarde la porte là, il y a encore une feuille dessous.
Attends, je vais voir. Encore une terminale. Eh ben, pas mal.
C'est un escalier en face ? C'est marrant, on dirait que la piste redescend. Ça revient vers les étages inférieurs. Ah mais carrément, ils nous sèment des fausses pistes.
C'est pas sympa.
Comment ça, il y a deux branches ? Il y a deux branches, pas possible. Le fantôme sème des brouillons.
Mais attends Justine, on est retourné au CDI ?
Ouais, c'est bizarre. Peut-être retourner faire un tour dans les salles cancer, c'est là que tout a commencé.
En tout cas, s'il y a bien un endroit où le fantôme doit être, c'est bien ici.
Paul, passe devant, moi je pars.
Tu peux partir ?
Regarde, c'est le labo photo, non ? Elles sont là, les copies ?
Une pile de copies en plein milieu.
Pourquoi il y a un enfant tout blanc qui nous regarde ? Au-dessus de toi !
Quoi ? Non, il y a personne au-dessus de moi.
Ah, il a bougé !
Est-ce que ce truc vient de traverser le plafond ?
Non,
attendez.
Je dois être fatiguée, Justine.
Non, attendez. Le fantôme de l'extérieur.
Non, c'est juste pour vous faire peur.
Léa, c'est une légende.
Ça n'existe pas, c'était pour vous faire
peur. C'est un truc qu'on raconte au 6e.
Ouais, mais là, c'était quand même un fantôme.
Qui a eu l'idée de le raconter au 6e ?
Ouais,
pourquoi ?
Il y a forcément une raison.
S'il cache ses salles, c'est qu'il y a une raison.
Attends, il y a un truc sur les salles. Je crois que c'est une vieille photo. Paul ?
Ouais.
T'avais pas vu un article sur une classe qui a été décimée par une maladie ?
C'est moi qui l'ai vu.
Il y a longtemps.
Et elle est datée de la fin du 19e siècle.
Je crois que
c'est la bonne période.
Je crois que c'est la même.
Vous voyez, je vous avais dit que ça avait un rapport.
Mais pourquoi elle serait là ?
Ok, j'ai peur.
Que d'aventure encore une fois. Je pense que nos reporters ont mérité un peu de repos. Laissons-les reprendre leur souffle en écoutant le témoignage d'un autre ancien élève de l'externat interviewé par Justine. Je t'en prie.
Alors oui, effectivement, vous avez interviewé Monsieur Blino, donc un ancien élève de l'externat qui a pris la carrière de kiné et qui est venu nous présenter ses années passées ici.
Je suis actuellement kinésithérapeute ostéopathe à Nantes. Vous avez souhaité que je vienne pour parler de ma vie à l'externat. Donc j'ai passé 10 années, de 1968 à 1978, et je suis arrivé donc en ce qu'on appelait la 10e, qui est le CE1 de maintenant.
Donc effectivement, une froide soirée de février, on a déambulé sous la pluie pendant deux bonnes heures, et Monsieur Blino nous a raconté tous ses souvenirs passés ici. Donc c'est assez long, c'est assez intéressant, écoutez-le jusqu'au bout.
68, c'était juste mon entrée à l'école après mai 68, donc ça a été aussi un changement un peu de mentalité. On passait d'une époque où il y avait une rigueur énorme partout, où ça ne rigolait pas, et puis tout d'un coup, les jeunes se sont révoltés en mai 68, et ont obligé finalement les professeurs, la pédagogie, à changer un peu d'attitude par rapport à la jeunesse et peut-être essayer d'aborder l'éducation d'une autre façon. Finalement, ça s'est aussi multiplié par de nombreuses manifestations. Il y avait beaucoup de manifestations. C'était quand même relativement bon enfant, mais il y avait une envie un peu chez les jeunes de prendre un peu le pouvoir, de pouvoir s'exprimer, plein de liberté, la liberté sexuelle, la liberté d'expression. Donc c'était une époque où finalement aussi au niveau de la chrétienté, entre guillemets, de tout ce qui était ce que vous appelez maintenant la pastorale, il y avait un discours qui changeait également, quoi. On a vu apparaître dans les églises à ce moment-là les guitares, les chansons. C'était une ambiance complètement différente. Donc c'était une époque, un moment de liberté, mais il fallait effectivement un peu savoir l'acquérir. Et ce n'était pas quelque chose qui s'est passé forcément toujours dans la douceur et dans la grande compréhension. Mais bon, ça a été une évolution logique des choses.
Du coup, on va peut-être aller faire un petit tour de l'école pour essayer de se repérer un peu.
Oui, là, je vous avoue que je suis un peu perdu. Là, ça, c'est de nouveau.
Ça a beaucoup bougé. Et donc, la chapelle.
Oh. On ne rentrait jamais par là.
On rentrait par où ?
On rentrait par là-bas.
On rentrait par la porte, c'était de l'accueil ?
Voilà. Quand on allait à la messe, je ne sais pas, en primaire, on allait je sais pas, peut-être une fois par semaine ou quelque chose comme ça. Il y avait la confession obligatoire, donc Alors là, j'espère quand même que vous savez qui a peint ça.
Non, moi je sais pas du tout.
Moi non plus.
Non.
Toi, tu sais, Gustave?
Non.
Le peintre qui a peint ces chefs-d'œuvre s'appelle Pierre Bouchot. C'est une grande famille, la famille Bouchot. Vous savez, il y a la rue Bouchot, il y a le passage Bouchot à Nantes. Il y a plusieurs endroits très connus de cette famille. Donc Pierre Bouchot était un prêtre, en 1887, je pense, et que nous, on voyait régulièrement. Il était âgé à l'époque, mais il était constamment avec sa soutane à se promener dans l'externat. Et il était encore, même à l'âge de 80 ans, il était encore professeur de dessin. Mais c'était un grand artiste. Hein. Et son frère Jean Bouchot est très, 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 très coté. Vous allez dans les musées à Paris, vous voyez des œuvres de Jean Bouchot. Et donc Jean Bouchot, il avait donc peint cette chapelle juste après la Première Guerre mondiale. Et donc en fait, je pense qu'il avait pris des élèves hein, pour servir de portrait. Donc il y a des personnes, effectivement, quand je les vois, j'ai l'impression de voir mon oncle ou des gens que je connaissais, qui étaient des anciens élèves également. Je me suis toujours demandé s'ils n'avaient pas servi comme modèle. Venez voir, attendez. Ça, c'était la salle qui correspondait à celle où on mettait tous les élèves 2h, 3h, 4h par semaine pour faire le devoir hebdomadaire.
Donc effectivement, notre salle de permano était leur salle de DS.
Elle était déjà là. L'infirmerie était déjà là, c'est incroyable.
Oui.
Incroyable. Donc là, nous sommes à l'emplacement des terrains de football.
Oui.
Bon, je crois qu'on a passé des heures et des heures à jouer. Je crois que notre génération, on passait notre temps à jouer au foot, à la moindre récréation. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un professeur qui s'appelait M. Pierre Roger, qui était professeur d'éducation physique. Et c'est lui qui m'a initié à l'athlétisme. Et donc, j'étais sélectionné au championnat de France avec l'Externat en 5e. Et puis, j'ai terminé en 4e, en minime 4e au championnat de France. Et puis, champion de France en cadet en seconde. Donc, on s'entraînait souvent sur le stade.
Ce fameux salle derrière du CDI était sans doute la cuisine, puisque la salle de DS était en fait l'ancienne cantine.
Bien sûr que c'était les cuisines. Non, mais j'en suis sûr et certain maintenant. Et puis il y avait d'autres quatrièmes qui étaient en face, de l'autre côté de la rue, juste vraiment face à l'entrée de l'avenue Camus, de l'autre côté, où maintenant il y a un immeuble moderne. Ils ont gardé la façade de cet immeuble, et il y avait cet endroit, donc là, entre autres la pendule qui était très, très ancienne, et qui est maintenant installée sur le bâtiment, le nouveau bâtiment, proche de ce qu'on appelait le bâtiment du lycée.
Alors là, il y avait quelque chose d'extraordinaire. Les travaux manuels. Monsieur Rimbaud qui s'occupait de ça, qui avait une demi-oreille en moins, et qui, en plus, avait un perroquet qui s'appelait Jaco. On passait notre temps à aller voir le perroquet et essayer de faire parler le perroquet, qui s'y parlait très bien. Jaco est content, enfin, c'était un grand amusement, quoi, vous imaginez.
Merci beaucoup de nous avoir donné votre temps pour parler du passé. Mais gardons les pieds sur terre, et pour cela, un peu d'informations récentes avec l'interview d'élèves d'espagnol en classe de première venus à l'issue d'un échange culturel. Laissons-leur la parole.
Et c'est encore moi. Alors effectivement, nous avons reçu des Espagnols qui étaient là pour les échanges avec une classe de première et qui ont bien voulu nous accorder une petite interview.
Et je m'appelle Valeria et je suis espagnole.
Et je m'appelle Adriana, j'habite à Séville.
Et je m'appelle Felipe, j'ai 15 ans. J'habite à Séville avec mon père et ma mère et mon frère.
Et je m'appelle Pepe, j'ai 15 ans. J'habite à Séville avec ma mère, mon père et ma frère et ma sœur.
Je m'appelle Julio, j'habite à Séville avec mes parents et mon frère.
Pourquoi est-ce que tu as voulu venir en France?
Pour connaître une nouvelle culture et un nouvel ami.
Parce que j'aime connaître de nouvelles personnes et j'aime la France.
Parce que j'aime voyager et j'aime aussi connaître de nouvelles personnes.
Et qu'est-ce que tu as fait pendant ta semaine ici?
Et nous sommes allés au match de football.
Et cette semaine, j'ai visité le Muséum des Beaux-Arts. Et j'ai sorti avec ma correspondante.
J'ai connu la ville de Nantes et nous sommes allés dans les musées de Beaux-Arts et on a vu un match de football.
Et qu'est-ce que tu as pensé de ton séjour?
Et c'est un, le meilleur semaine de l'année pour et c'est très bon.
Le match de football, vous l'avez gagné?
Oui.
Ah, cool. Et qu'est-ce que tu as pensé de ton séjour?
C'est bien.
C'est bien. Et enfin, est-ce que tu connais des stéréotypes sur les Français et tu as découvert qu'ils étaient vrais ici?
Et je pense que les Français sont très silencieux. Oui, silencieux. Et c'est vrai. Et les fromages sont très délicieux.
Et je pense que les Français sont très gentils. Et c'est vrai.
Merci à vous, en espérant que le voyage vous ait plu et que vous reviendrez. Avant de terminer cette édition, on écoute une interview d'Alain Tronchot par Justine. Je t'en prie.
Merci. Alors effectivement, j'ai interviewé avec quelques autres élèves Alain Tronchot, qui est un écrivain venu présenter son dernier livre à la classe de HLP Terminal, et donc son livre tiré d'une pièce de théâtre, « Où va ce train qui meurt au loin ?»
Bonjour Alain.
Bonjour.
Donc pouvez-vous nous faire un rapide résumé du livre ?
Alors c'est un ouvrage qui raconte l'épopée d'un tas de personnes dans les trains de la mort. Donc c'est un sujet qui est assez grave que j'ai présenté aujourd'hui.
De ce que j'ai compris, il y a aussi une pièce de théâtre tirée de cette œuvre.
Oui, absolument. Donc j'étais venu aussi présenter quelques extraits de cette pièce, puis en discuter avec les élèves.
Pourquoi avez-vous choisi ce sujet de la Shoah qui est assez impactant dans l'histoire?
Oui, alors, comme je le disais, j'avais eu l'occasion, étant tout petit, d'inaugurer un square qui était consacré à deux déportés. Et j'étais vraiment petit, et pour moi, ça ne représentait pas grand-chose de très concret de couper le ruban. Et je me suis interrogé ce que c'était que ce camp de Mauthausen, ce camp de Munich. Et au fil du temps, je me suis intéressé à cette période. Et ensuite, je suis tombé par hasard sur les témoignages des déportés dont je parle dans le livre, et j'ai eu envie de leur rendre hommage.
Une question plus sur la forme du livre. Pourquoi avoir choisi cette forme poétique qui est assez particulière dans la littérature?
Oui, alors c'est intéressant comme question parce qu'avant, je n'avais écrit que des pièces de théâtre et quand j'ai lu les témoignages, j'imaginais vraiment le train, j'imaginais vraiment un plateau, j'imaginais vraiment une scène de théâtre. Donc je l'ai construite au début comme une pièce de théâtre, cette épopée-là. Et puis petit à petit, j'ai l'impression que c'est plus le genre qui m'a choisi que moi qui ai choisi le genre en fait. Je ne saurais pas dire. Au fil de l'écriture, ça s'est imposé comme un texte poétique. Peut-être qu'il y avait des choses qui étaient, que j'avais besoin de dire par le biais de la poésie, parce que sinon elles auraient été trop crues, trop violentes. Elles restent quand même relativement violentes. Je ne sais pas. Franchement, je ne saurais pas dire.
Est-ce que vous pourriez nous citer la partie de l'œuvre qui vous a le plus marqué?
Je pense que il y en a plusieurs, mais il y a quand même ce moment où une mère tient son enfant dans les bras, elle est dans le train, il y a plein de gens autour qui s'agitent, qui se battent, qui ont un comportement assez violent, et elle essaye de protéger sa petite fille, donc elle la prend dans les bras. C'est vrai que c'est un moment qui m'a beaucoup marqué. Le moment aussi au début où un mari est séparé de sa femme, il ne sait absolument pas pourquoi. Enfin, il précise qu'il n'est pas comme elle, on comprend qu'elle n'est pas juive, vraisemblablement. C'est un moment aussi assez déchirant, mais il y a plein de moments dans ces témoignages qui m'ont vraiment ému.
Est-ce que vous pourriez nous dire quel projet vous désiriez mettre en place dans le futur, peut-être différent ou similaire dans la forme ou dans le sujet?
Alors, il y a plusieurs choses. C'est vrai que je travaille étroitement avec le théâtre universitaire de Strasbourg. Mais curieusement, ce ne sont sans doute pas des textes théâtraux que j'ai envie d'écrire, mais plutôt des textes poétiques, encore une nouvelle fois. Et peut-être aussi mettre en scène des textes qui ne sont pas de moi. Moi, ça me permettrait vraiment aussi d'avoir un autre regard. Voilà, pas mal de choses en prévision. Et puis, j'espère revenir vous voir. Et puis surtout, vous voir jouer, vous, parce que j'en ai eu un aperçu et c'était vraiment très prometteur.
Eh bien, merci beaucoup, Alain. On espère aussi beaucoup vous revoir. Et maintenant, est-ce que vous aimeriez nous dire le mot de la fin pour conclure cette interview?
Bravo à toutes et tous pour le travail qui a été fait. Comme je le disais, j'ai hâte d'en savoir plus, j'ai hâte de voir. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font du théâtre parmi les étudiants que j'ai vus aujourd'hui. Donc ça me donne vraiment très envie. Je reviens avec le film, je vais le montrer aux comédiens et je suis sûr que certains vont avoir des petits complexes quand même.
Eh bien, merci beaucoup. C'était Amandine Lafond de la Laurentie et Justine Chupin. Nous étions avec Monsieur Alain Tronchot pour Good Morning Externa.
Nous vous souhaitons une bonne journée et vous recommandons chaudement d'aller lire Où va ce train qui meurt au loin.
Merci Alain Tronchot, merci Justine, et tout particulièrement, merci à vous. Merci à vous de nous avoir écoutés une fois de plus, de nous donner l'envie de continuer par votre attention et vos retours plus que positifs. En attendant de ravir vos oreilles encore une fois avec nos 12 voix, l'équipe et moi, on vous souhaite le meilleur. Portez-vous bien et à la prochaine.
Bisous.
On se voit en avril.
Et c'est ciao.